France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
À l'occasion de l'UNOC, la troisième conférence des Nations Unies pour l'océan, on poursuit notre feuilleton. Aujourd'hui, on prend nos hydrophones et on les place sous l'eau que nous enseigne l'éco-acoustique marine. Les baleines chantent, les poissons babillent et les coquilles Saint-Jacques claquent. Cousteau avait tort. L'océan n'est pas le monde du silence. Au contraire, les scientifiques commencent tout juste à déchiffrer cette symphonie. On découvre aujourd'hui que même chez les invertébrés, le son joue un rôle essentiel, bien plus important qu'on l'imaginait. Mais il n'y a pas que le plastique et le mercure qui contaminent nos océans. Le vacarme des activités humaines a des conséquences désastreuses sur l'équilibre fragile des écosystèmes marins. Bioacoustique marine, le bruit des fonds. Frédéric Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écologue marin, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, affilié à l'unité mixte de recherche Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques, également rattaché au laboratoire des sciences de l'environnement marin de l'Université de Bretagne occidentale, qui fait aussi partie de l'Institut universitaire européen de la mer. Olivier Adam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bioacousticien spécialiste du son des cétacés et professeur à Sorbonne Université. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quelles sont les méthodes de l'écologie acoustique? Quel est l'impact du bruit anthropique sur les cétacés et sur les invertébrés? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, sous l'eau, d'où proviennent tous ces sons? La question est posée en 1961, c'est notre archive du jour.
Beaucoup d'auditeurs ont peut-être appris avec étonnement que nombre d'animaux aquatiques sont tout aussi bruyants que les chanteurs et bruiteurs terrestres qui nous sont familiers. Le monde du silence est donc un titre très mal choisi pour qualifier l'univers sous-marin. Mammifères marins, poissons, crustacés émettent des sons qui ne le cèdent en rien en variété et en intensité à ceux que nous entendons sur la terre ferme. S'ils nous échappent presque totalement dans les conditions courantes, c'est que la surface de séparation de l'eau et de l'atmosphère est une surface réfléchissante pour les ondes sonores et ultrasonores. Quand nous sommes en plongée, nous n'entendons pas non plus les sons qui sont émis au-dessus de la surface de l'eau, à moins qu'ils soient très intenses, car c'est à peine un millième de l'intensité des sons qui peut passer de l'air dans l'eau ou inversement. À l'intérieur du milieu liquide, au contraire, les sons se propagent aussi bien et même beaucoup plus vite que dans l'air, et ils peuvent être perçus à des distances encore plus grandes. Il n'y a donc aucune raison pour que les êtres marins soient muets. Et en fait, ils sont extrêmement sonores.
Un extrait de l'émission « L'heure de culture française » diffusée sur la RDF en 1961. Olivier Adam, pour compléter ce qu'on vient d'entendre, est-ce que tout organisme aquatique produit du son?
Alors en fait, on a commencé à s'y intéresser avant la Deuxième Guerre mondiale, par une chercheuse américaine qui s'appelait Mary Fish et qui avait noté un truc intéressant, c'est que elle a écouté plein de poissons, etc. Mais elle a noté un point intéressant, c'est que le son qui avait été émis n'est pas un accident. Vous voyez, quand par exemple un poisson claque le bec, et ben en fait, si jamais il y a une intention, ça veut dire qu'il peut communiquer avec un autre individu. Là, ça devient hyper intéressant. Et effectivement, après donc les années 60, 70, là, on s'est dit, mais en fait, il y a plein d'espèces marines qui émettent des sons. On les avait jamais tellement entendues, jamais tellement écouté, quoi. Alors que c'est complètement différent maintenant. Maintenant, on sait. Alors, moi, je travaille sur les cétacés, par exemple. Il y a 90 espèces de cétacés. Ils émettent tous des sons. Hein, c'est des mammifères. Comme nous, ils ont un système, un générateur vocal. On pourra peut-être y revenir si vous voulez faire un peu de technique. Et puis, ils ont un système auditif qui est exactement le même que le nôtre, puisque ce sont les mammifères. Et go for it. Ils vont pouvoir. Alors, ils ont plusieurs sens. Il y a un sens tactile qui est hyper important. C'est-à-dire que les dauphins, les voies ou les cachalots, ils ont toute l'immensité des océans. Mais non, ils vont se toucher, ils vont rester ensemble, bien groupés, etc. Ils ont évidemment le contact visuel, et le contact visuel avec une baleine, il faut le vivre pour voir que c'est complètement dingue, quoi. Et puis ensuite, ils vont avoir le son, parce qu'évidemment, dès que on n'a pas, même si l'eau est super claire, on voit pas très loin, et donc le son devient un peu essentiel. Il y a même logiquement s'impose comme étant un moyen de communication à distance, quoi.
Frédéric Olivier, là on évoque les cétacés, mais chez les invertébrés que vous étudiez, le son est aussi quelque chose de très important. Ce sont des espèces qui sont sensibles au son, qui en produisent également.
Alors c'est vrai que on va dire que nos groupes de recherche qui travaillent sur les invertébrés, on est en retard de plusieurs décennies par rapport à nos collègues qui travaillent sur les mammifères. Et il y avait un petit peu une différence d'école de pensée, hein. Le son, c'était les spécialistes des mammifères marins, et puis les invertébrés, ça, c'était quelque chose qui était un petit peu de côté jusqu'à présent. Et c'est assez récemment qu'on a commencé vraiment à travailler sur ces invertébrés, avec des bivalves, avec des crustacés, de faire un inventaire hein, tout simple des sons qui peuvent être émis par des grands crustacés. On s'aperçoit là qu'on est capable d'avoir des signatures acoustiques qui sont très différentes entre une araignée de mer, entre un crabe commun, entre un homard. Et ces invertébrés, ils n'ont pas les mêmes sens, les mêmes organes sensoriels que les mammifères marins. Ils en ont plusieurs. Les statocystes, donc c'est des systèmes qui... C'est une petite cellule où vous allez avoir, qui va être remplie de cils innervés avec une particule de carbonate et qui va bouger quand une onde sonore va passer. Et donc, cette petite pierre, si on veut, elle va, comment dire, stimuler ses cils et donner un signal acoustique à l'organisme. Alors ça, c'est ce qu'on connaît classiquement chez les crevettes, chez beaucoup d'espèces. Mais sur les bivalves, ça a été démontré quand même un peu plus tardivement, dans les années 80, fin des années 80, il existe un organe sensoriel abdominal qui est situé autour de l'anus. Donc ça correspond à peu près à la sortie des siphons chez, comment dire, un bivalve classique, une praire, une amande de mer. Et donc, c'est vraiment un organe qui est fait pour sentir ce qu'on appelle, on en reparlera peut-être un petit peu en acoustique, l'histoire de vitesse particulière, l'agitation des particules dans l'eau. Et c'est par paire, il y a beaucoup d'espèces de bivalves qui ont ces moyens-là. Et pour finir sur ces organes sensoriels, eh bien, il y a des espèces comme les homards qui, elles, sont capables d'écouter par les poils des pattes. Alors, si vous mettez un vernis sur des pattes de homard, eh bien, ce homard n'entend plus rien. Donc c'est quand même assez incroyable.
C'est par vibration.
Exactement. Là, les invertébrés, contrairement à d'autres espèces, vont vraiment percevoir l'agitation des particules. On parle d'agitation de l'ordre du nanomètre. Hein. C'est vraiment des choses qui sont toutes faibles.
Ils écoutent donc par les poils des pattes. Et puis, certains homards et puis certaines langoustes en Bretagne sont audibles à plus de 1 km. Olivier, donc, quels sont les animaux qui produisent les sons les plus intenses dans l'océan?
Oula, bon là on va passer sur les baleines. Je pense que les grandes baleines, comme les baleines bleues, le baleine bleue c'est la plus grande espèce en tous les cas sur Terre. En fait, nous avec Florence Samaran de l'ENSTA, on les a enregistrées à plus de 150 km des hydrophones. Et puis maintenant, on parle de 500 km, 600 km. Donc en fait, c'est des sons qui se propagent très bien. L'acoustique sous l'eau, en fait, c'est fantastique. Déjà, ça va 5 fois plus vite. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, bah, vous m'aurez entendu 5 fois plus vite que dans l'air. Et puis effectivement, c'est un peu complexe, avec une réflexion totale à la surface, comme a été dit dans le reportage juste avant, et du coup, une ambiance, un open space sonore, où toutes les espèces, enfin, plusieurs espèces, plusieurs sources sonores viennent rajouter du bruit, et ça, c'est intéressant, voilà. Les cétacés, en fait, les plus petits, c'est-à-dire les marsouins, les sautalis, les vaquitas, qui sont en fait des dauphins miniatures d'un mètre de long, eux, ils ont des fréquences un peu plus hautes, et il y a une atténuation en fréquence qui est assez forte dans les océans, c'est F au carré, enfin la fréquence au carré, et du coup le son se propage pas très loin, d'accord. Donc en fait ça va dépendre des espèces que vous voulez aller voir. Après les baleines à bosse, on parle de 30, 40 km, 50 km, cachalot pareil, donc en fait il va y avoir du son autour de votre bateau, ça c'est sûr cet été.
Alors du son autour du bateau, on distingue en général trois grandes sources de son, Frédéric Olivier.
Oui, tout à fait. Bien, vous mettez un hydrophone sous l'eau. Là, c'est quand même les acousticiens qui connaissent bien ça. Nous, on apprend dernièrement à le faire. On va entendre, on est capable d'entendre, notamment, moi, j'ai travaillé dans les milieux polaires, on est capable d'entendre, comment dire, la houle qui se propage sous la banquise, qui fait une espèce de sirène de pompiers. On est capable d'entendre s'il pleut, s'il y a de l'agitation, comment dire, des vagues. Donc ça, on met ça dans une catégorie qu'on appelle, comment dire, la géophonie. Ces organismes marins, alors mammifères marins, invertébrés, sont capables, mais pas tous, de produire du son. Et ça, faut le rappeler, toutes les espèces ne sont pas sonifères. Il y a des espèces qui ne vont pas produire de son, mais globalement, plus il y a de diversité d'espèces, plus vous allez avoir de diversité de sons. Et donc là, on est dans ce qu'on appelle la biophonie. Si vous mettez, on entend souvent, si on peut faire une comparaison, c'est comme de l'huile qui est en train de crépiter un petit peu dans une poêle. Ça fait ce bruit de fond là qu'on peut entendre au large de Molène, par exemple. Et puis, la dernière catégorie, qui est une catégorie qui est importante pour nous, parce qu'on travaille beaucoup sur les impacts des sons associés aux activités humaines, c'est donc tout ce qu'on appelle l'anthropophonie. Donc des sons qui sont produits associés au trafic maritime, à des aménagements portuaires, à l'implantation de parcs éoliens en mer. Et ça peut générer vraiment des niveaux sonores qui sont très importants et avec une énergie, on en reparlera sûrement, qui est dans les basses fréquences. Donc ça, pour vous donner un ordre de grandeur sur le trafic maritime, il y a des travaux très récents qui sont en train de prédire que le niveau sonore dans l'océan lié au trafic maritime va doubler tous les 10 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important.
Et on reviendra en effet sur cette pollution d'un autre ordre, mais tout aussi préoccupant. Mais par rapport justement à cette discipline qui est la bioacoustique, Olivier Adam, l'oreille humaine n'est pas du tout adaptée à l'écoute sous-marine. Donc comment cette discipline est-elle née ?
Ah oui, en fait, il vaut mieux passer par un micro, en fait. On utilise les microphones. Bon, évidemment, ils sont étanches, parce que sinon, il y a un petit souci, mais on met un microphone dans l'eau, et là, on va pouvoir capter les sons. On va capter les sons de toutes les sources sonores qui vont être dans la zone d'intérêt, quoi. Mais c'est vrai que de mettre la tête sous l'eau, on entend des sons, quand même. Il faut une toute petite adaptation, parce que c'est pas immédiat. On est très performant dans le milieu aérien. Dans l'eau, c'est un petit peu plus complexe. En plus, les vibrations acoustiques, on peut les percevoir différemment que par notre système auditif. On peut les percevoir par notre corps, tout simplement, comme si vous mettez à côté de l'enceinte de Mick Jagger, je veux dire, vous allez plus entendre avec vos abdomens qu'avec vos oreilles, quoi. Et donc on entend des sons. C'est très intéressant parce qu'en fait, avec les microphones, c'est plus clair, le son est plus clair, il est plus beau. Peut-être qu'on va écouter quelques baleines, je sais pas, mais dans l'eau, on a un truc un peu qui est un petit peu atténué, je dirais un petit peu moins clair, voilà.
Frédéric Olivier, comment s'est structurée un peu à peu cette discipline ? Parce qu'on parle quand même d'une science assez balbutiante, encore plus quand il est question de son du côté des invertébrés aussi.
Alors on a travaillé vraiment, c'est mon expérience personnelle, on a commencé à travailler, on s'intéressait un petit peu aux impacts sonores sur des larves d'invertébrés. Et on a commencé dans des aquariums à réémettre des sons d'un bateau et de voir un peu si on avait des réponses sur nos larves, en termes de survie, en termes de croissance, sur des choses qu'on maîtrise bien. Et la première expérience a été un échec total, on doit le dire. On avait pas de différence du tout, mais par contre, on voyait qu'on avait une variabilité qui était énorme dans notre traitement avec notre son. Donc là, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose. Et donc, on a fait évoluer nos techniques. On s'est formé, on s'est marié avec des acousticiens parce que on n'est pas, moi je suis un écologiste de base et c'est quand même des sciences de l'ingénieur avec une formation qui est beaucoup plus mathématique, traitement du signal acoustique,
physique.
Et donc il fallait, c'est vraiment une convergence et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en consortium avec des spécialistes de l'acoustique comme Olivier, comme Julien Bonnel qui est un acousticien de Woodsall. Voilà, on a besoin de ça et c'est en travaillant sur des projets qu'on a réussi à se former les uns aux autres. Il a écouté la biologie et moi j'ai écouté l'acoustique et on arrive maintenant à vraiment bien se développer.
C'est très pluridisciplinaire. C'est biologie, écologie, éthologie, parce qu'on fait du comportement avec les sons. Et puis évidemment, acoustique. Là maintenant, la dernière étudiante que j'ai recrutée, elle est spécialiste en intelligence artificielle. Donc en fait, on est très large dans nos recrutements et dans nos thématiques de recherche. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la collaboration de différentes thématiques. Parce qu'on apprend en fait de nos collègues et du coup, on va plus loin.
Alors comment justement tous ces scientifiques collaborent-ils ensemble pour interpréter tous ces sons qui nous viennent de la mer ? Ces 90 espèces de cétacés qui possèdent toutes un langage acoustique spécifique. Quel est ce langage ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, c'est notre troisième épisode de notre feuilleton consacré à la mer, avec aujourd'hui l'acoustique des animaux marins et la bioacoustique aquatique. On vient de parler et d'évoquer la naissance de cette discipline qui croise éthologie, biologie, acoustique. On en parle avec Frédéric Olivier et Olivier Adam. La bioacoustique, c'est quelque chose qui nous permet de reconnaître, d'identifier des espèces marines, Olivier Adam ?
Oui, tout à fait. En fait, la bioacoustique, nos collègues dans le milieu terrestre, enfin, sur le milieu terrestre ou aérien, ils font ça depuis longtemps. En fait, on met des micros et puis après, on essaie déjà, ça nous permet de les détecter. Et dans l'eau, c'est intéressant parce que en mer, en fait, les cétacés sont tout le temps en profondeur et on ne va pas les suivre en profondeur et puis on ne les voit pas quand ils sont en profondeur. Donc, du coup, l'acoustique, ça devient la technique qui permet de savoir qu'ils sont là. Enfin, évidemment, il faut qu'ils envoient des sons, mais généralement, c'est ce qu'ils font. Et donc, du coup, on sait qu'ils sont là. Et après, on va essayer d'identifier l'espèce, d'accord ? Parce qu'en fait, ils ont quand même beaucoup de variations dans une espèce. La baleine bleue, par exemple, est très, très basse fréquence avec des sons stéréotypés qui sont très différents d'une baleine à bosse. Donc, moi, dès que j'entends un son, je sais exactement quelle espèce ça peut être. Alors, pour certains dont on sait, c'est un petit peu plus complexe parce que les clics sont parfois difficiles à faire à l'oreille. On utilise plutôt des logiciels pour faire ça. Tout ça pour dire que les émissions sonores sont diverses, les espèces, mais alors on est descendu jusqu'à la région, au niveau régional, on a parlé de dialectes régionaux, par exemple pour les bananes ou pour des cachalots, ou pour des orques aussi, des dialectes, des clans acoustiques pour des orques, c'est-à-dire des familles qui ont des sons qui leur sont propres et qui sont différents d'une autre famille. Par contre, on n'en est pas à l'individu. Ça peut paraître dingue, mais en 2025, on a du mal à identifier un individu à partir des sons qu'il émet. Moi, maintenant que je vous ai écouté, je vous reconnais jusqu'à la fin de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous portez dans votre voix une signature acoustique individuelle. Alors, ça a été fait pour des dauphins, d'accord ? En 2013, il y a eu des articles qui ont montré que certains dauphins utilisaient des sifflements, en fait, une signature sifflée, en fait. On a essayé d'étendre ça à des orques, on a essayé d'étendre ça à des belugas, au cachalot, où c'est vraiment très fragile, la publication est très fragile. Et c'est tout pour les mysticètes. Alors, toutes les baleines à fanon, on sait pas où chercher. Elles ont forcément, moi je suis convaincu, parce qu'elles ont un générateur vocal qui leur sont spécifiques, mais on ne sait pas où chercher pour savoir où est leur signature acoustique individuelle. Et j'aimerais tellement reconnaître Gérard, Bernadette, etc.
On va voir si vous reconnaissez en tout cas ce son-là. Trop facile.
Bah là, vous reconnaissez l'accent malgache. Alors, baleine à bosse qui est enregistré avec nos collègues de Setamada, qui est une association exceptionnelle dans l'océan Indien, qui travaille d'ailleurs avec Abyss, qui est à La Réunion et qui est aussi exceptionnelle. Mais tout ça pour dire que, en fait, les baleines à bosse viennent dans l'océan Indien pour se reproduire. D'accord ? Elles viennent de l'Antarctique, elles montent dans l'océan Indien et viennent pour se reproduire. Et à ce moment-là, les mâles se mettent à chanter. D'accord ? Alors, ils chantent un peu avant, mais globalement, dans les zones de reproduction, dès que vous mettez un hydrophone, vous allez entendre ce genre de son, et ça hurle. D'accord ? C'est pas comme si c'était des petits sons, en fait. Mais un hydrophone, et là, on a quand même pas mal de densité acoustique grâce à ces chants. Après, je peux raconter l'histoire des chants, mais là, il faut décaler les émissions suivantes, hein, parce qu'on en a pour 2 heures.
Non, mais en effet, parce que le chant de la baleine à bosse, c'est un chant qui est très élaboré. C'est aussi une de ses caractéristiques.
Voilà. Là, vous l'avez entendu, en fait, il y a des vocalisations, silence, vocalisation, silence, vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, alors maintenant qu'on le sait, c'est facile, mais avant 1971, quand la publication de Roger Penn et Scott McVeigh a été publiée dans Science en 1971, ils ont dit, mais en fait, les vocalisations, elles ne sont pas émises dans un ordre aléatoire. Elles sont émises dans un certain ordre et elles vont faire une phrase. Donc, il y a une phrase qui peut faire 3, 4, 5, 6 vocalisations. Après, la baleine va répéter cette phrase, va répéter cette phrase, va répéter cette phrase, puis après, elle va changer de phrase avec 3, 4, 5, 6 vocalisations et rebelote, etc. Ça va durer 15 minutes. Et donc, quand on écoute ce type de son, et ben maintenant, dès que vous avez entendu la phrase, vous pouvez après prédire les vocalisations, parce que vous savez exactement ce que le chanteur va faire. Bon, c'est pas des robots, donc des fois, il y a des petits loupés ou des petits rajouts, mais en l'occurrence, on connaît ces thèmes qu'on appelle d'ailleurs des leitmotifs, parce qu'on a fait un hold-up sur tout le vocabulaire qu'on utilise en musique, c'est-à-dire chant, leitmotiv, mélodie, etc. Pas de problème. Voilà.
Et donc vous dites qu'elles ont des caractéristiques acoustiques spécifiques. On va continuer ce petit blind test avec celui-ci.
Voilà, ça c'est une baleine boréale qui a été enregistrée en Arctique par ma collègue Kate Stafford. En fait, Ce qui s'est passé, c'est que les baleines boréales, bon, on va pas les voir tous les jours parce qu'elles sont loin, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, etc. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis des hydrophones dans l'eau, puis elle est rentrée chez elle à Seattle, et puis après, elle est revenue récupérer ces hydrophones, et c'est ça qu'elle a entendu, quoi. Et c'est des choses incroyables, parce que ce sont des vocalisations. Bon, déjà, on n'est pas tellement habitué. C'est vrai que contrairement aux sons qu'on entend sur Terre, bah là, il y a une super grande diversité, puis des sons qui sont carrément étonnants. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, elles sont très loquaces. Finalement, autant moi j'étais à fond sur les baleines à bosse, et quand j'ai discuté avec Kate sur ces baleines, elle m'a fait écouter plein d'enregistrements qui durent des heures. Elle a d'ailleurs utilisé un mot qui est pas mal, que vous pouvez retrouver dans vos recherches sur internet, c'est jazz. Si vous mettez baleine boréale jazz, vous allez avoir plein d'articles, parce qu'elles disent que contrairement aux baleines à bosse qui ont vraiment des phrases figées, une mélodie bien faite, qui vont les accompagner pendant toute la période de reproduction, c'est-à-dire les deux mois et demi, quoi, et ben les baleines boréales, elles ont l'impression qu'elles sont beaucoup plus libres dans leur proposition d'émissions sonores.
Pourquoi sont-elles plus libres? Je lis aussi que leur répertoire varie tout le temps, constamment. Voilà. On sait pourquoi?
En fait, quand on veut s'exprimer, il n'y a pas de raison de reprendre les mêmes mots. Enfin, moi, j'ai 50 mots de vocabulaire, donc je suis un peu limité, mais je pense que les baleines, elles sont beaucoup plus fortes que moi, quoi, sur ce coup-là.
Et pour ces chants complexes et très variés, quel est justement leur générateur vocal?
Alors, sur les Misty 7, on l'a publié en 2013, en fait, avec Joy Redenberg, on a fait un super travail. Et là aussi, c'est de l'anatomie, par exemple. Moi, je suis science de l'ingénieur, donc j'ai jamais fait d'anatomie. Je me suis adressé à une collègue dont c'était la spécialité. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé des baleines pour aller voir quel était le système respiratoire, où était le vibrateur dans le système respiratoire, parce qu'elles n'ont pas de cordes vocales. Et donc, du coup, on se dit, alors, s'il n'y a pas de cordes vocales, comment ça fonctionne, quoi? Contrairement aux mammifères terrestres où ils ont des cordes vocales, quoi. Et là, on a ouvert ça. Alors, les baleines étaient mortes, évidemment, elles étaient échouées, etc. Et donc, on a ouvert et on a identifié les différentes parts. Alors, en fait, elles ont donc des narines qu'on appelle des évents, elles ont des conduits nasaux comme nous, elles ont une trachée comme nous et des poumons comme nous. Donc, ça, c'est facile. Par contre, en plus de nous, les mysticètes, donc ces baleines à fanon, elles ont un sac, un ballon qui est accroché à la trachée. D'accord? Et ce ballon, en fait, elles vont envoyer de l'air des poumons pour le gonfler. Et puis après, elles vont compresser avec leurs muscles ce ballon pour renvoyer l'air dans les poumons. Et c'est ce qui leur permet de faire des apnées super longues. Les baleines font pas des concours d'apnée. Donc, on sait pas exactement. Mais je pense qu'une baleine à bosse peut tenir 30 minutes, 40 minutes, peut-être plus. On sait pas. Mais en tous les cas, c'est assez impressionnant. Et ben, en fait, pour tenir aussi longtemps, elle va faire circuler l'air de ses poumons dans ce ballon et du ballon vers ses poumons. Vous comprenez? C'est facile. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que les deux cartilages qui tiennent le ballon sont recouverts d'une membrane, d'accord? Et donc, ce que va faire la baleine, plutôt que d'ouvrir comme une folle ces deux membranes, elle va ouvrir tout simplement assez faiblement, en fait, les cartilages, et les membranes vont se mettre à vibrer quand le flux d'air va venir des poumons. D'accord? Un peu comme quand vous soufflez à travers vos paumes de main, par exemple. Et là, ça va créer une vibration. Et qui dit une vibration, eh ben, ça a du son, quoi. Et là, c'est parti. Et après, alors là, on a construit un modèle numérique pour expliquer, en fait, la création de ces sons, de ces émissions sonores. Parce que c'est intéressant, une fois qu'on sait ça, on peut caractériser les basses fréquences, les hautes fréquences, le fait, la présence ou pas de fréquences harmoniques, c'est-à-dire pas uniquement la fondamentale. La fondamentale, c'est comme ça. Mais après, avec votre nez, avec votre bouche, eh ben, vous allez déformer ce son. Il va y avoir des harmoniques qui vont correspondre aux résonances de votre système, de votre générateur vocal. Et ben, avec les baleines, c'est exactement pareil. Et ils ont des sons extrêmement différents grâce à ça.
Ben, ce modèle numérique pour interpréter ces différents sons, allons le voir justement avec leur portage du jour. Pour retranscrire les environnements sous-marins, il faut donc enregistrer avec des hydrophones les espaces en profondeur, mais il faut aussi être capable d'analyser ces données, ce qui nécessite de mobiliser des outils en IA. Pour comprendre cette démarche, nous sommes allés dans votre laboratoire, Olivier Adam, à l'Institut Jean Leroux d'Alembert de Sorbonne Université. Et c'est avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha, oui, auprès de Lucie Jean Labadie, doctorante en première année, et Gabriel Dubu, post-doctorant qui étudie les paysages sonores sous-marins, à la fois la biophonie mais aussi la géophonie et l'anthropophonie. Il travaille à partir d'enregistrements qui peuvent s'étaler sur des semaines voire des mois, ce qui représente un effort colossal pour arriver à en tirer de l'information, comme les communications ou chants de cétacés. Pour y parvenir, il développe des algorithmes en deep learning basés sur des réseaux de neurones convolutifs, c'est-à-dire qui utilise des données tridimensionnelles pour la classification et la reconnaissance des schémas acoustiques.
Alors là, on entend des chants, des différents types de sons, des whoops, ouais, de baleines à bosse. Un truc que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'on entend une sorte d'écho. Prochain. Voilà. Sur les houles, on entend un écho qui est assez long. C'est notamment une zone autour de la Guadeloupe où il y a un gros tombant. Et donc, en se plaçant juste après ce tombant, en fait, c'est exactement l'idée de... On est face à une montagne, on crie écho et on entend écho en retour. Et bien, s'il y a une sorte de grand mur, un grand tombant dans l'eau et qu'il y a un son qui se propage, il va aussi être réfracté par ce son, enfin par ce mur-là. Il y a aussi évidemment le sol qui peut le réfracter le son et la surface. Et donc j'aime beaucoup, ça fait un petit effet un peu cathédrale et on a l'impression que les baleines chantent dans une cathédrale et au-delà de l'aspect scientifique, moi je trouve personnellement ça très très joli.
Je vais faire la bonne élève d'Olivier aussi, mais ce qui est intéressant c'est que ce qu'on entend dans cet enregistrement c'est qu'il y a des phrases et en fait l'un des principes des chants des baleines à bosse c'est que c'est des chants qui sont structurés. En fait on parle de chants de baleines à bosse parce qu'il y a des structures temporelles qui vont venir se répéter.
Des patterns qui sont
ouais, c'est ça exactement. Et en fait les baleines à bosse typiquement elles vont répéter plusieurs fois des motifs. Et quand on écoute un enregistrement suffisamment long de baleine à bosse, on capte ce motif-là et en fait elles vont le répéter plusieurs fois, puis soit le recommencer, soit passer à autre chose. Et c'est pour ça que typiquement on appelle ça des chants. Et par exemple pour les baleines bleues, qui ont des répertoires vocaux beaucoup plus restreints, on ne parle pas de chants. On parle de vocalisation, mais on ne parle pas de chants.
Et là on pourrait assigner un sens ou une fonction à ce type de chant justement, parce qu'il est très stéréotypé.
Le sens, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut pas. C'est
interpréter.
Évident. Ouais, je pense que c'est évident que les baleines à bosse sont intelligentes et on a dénié pendant longtemps l'aspect intelligent de la nature et je pense que c'était une grande faute scientifique. Et puis, en fait, la question aussi qu'on se pose, c'est à quel point, en fait, la signification de ces changes-là, ils échappent aussi quelque part à nos structures linguistiques à nous. Et en fait, si on cherche à faire, entre guillemets, à calquer comme un modèle de traduction, elle parle pas anglais, elle parle baleine. Et il y a des notions en biologie qui existent comme l'umwelt, qui sont des notions de... Les animaux ont des espaces de perception qui sont radicalement différents des nôtres. Et du coup, à partir de là, est-ce que vraiment un jour on pourra les comprendre? Parce qu'en fait, peut-être que la façon qu'elles ont communiqué, ça échappe totalement à nos structures même de pensée, en fait.
Alors à ce jour, il me semble qu'on identifie environ 89 espèces de cétacés. Comment on s'y prend pour arriver à capter leur communication, leur déplacement, leur vocalisation in situ ?
Leur vocalisation, pour capter des sons dans l'eau, on utilise ce qu'on appelle des hydrophones, donc c'est des microphones qui sont étanches globalement. Et du coup, leur vocalisation, il y a différentes façons de les capter. Soit on jette des hydrophones de bateau, c'est généralement des campagnes qui sont assez courtes, qui durent quelques heures, plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois dans une semaine, dans un mois, etc. Ou alors on peut placer des hydrophones à des endroits fixes, et là, ils peuvent enregistrer pendant des mois, des années... On continue ou pas.
C'est une écoute passive, du coup.
Ouais, c'est ça, exactement. Après, il existe aussi des expériences actives, des écoutes actives, où on diffuse du son dans l'eau, mais là, ce sera plus des études pour du comportement. C'est-à-dire comment elles se comportent si on passe, par exemple, un son de prédateur ou un son de bateau ou ce genre de choses.
C'est ça. Ouais, je pense qu'il faut vraiment voir l'acoustique, en fait, comme un outil. Les océans, c'est des endroits extrêmement bruyants et il se passe plein de choses. Et du coup, le son nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui s'y passe. Mais du coup, il n'y a pas une bonne et une mauvaise méthode pour prendre du son dans l'eau. Ce qui compte, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on cherche à savoir quelles espèces sont là sur 10 ans dans telle zone? Dans ce cas-là, une écoute passive, c'est extrêmement pertinent. Si on cherche à s'intéresser au comportement d'une baleine à bosse quand elle est proche d'un bateau ou de tel autre type d'espèce, on va aller faire du passif plus spécifique. Donc ça dépend vraiment de la question biologique, écologique, éthologique qu'on va se poser. Et l'acoustique, c'est un moyen pour répondre à cette question.
Alors justement, quelle était la question et les hypothèses que vous vous êtes posées?
Ouais, moi en fait, l'idée c'est que pour faire de l'estimation de densité, par exemple, il y a plusieurs choses qui sont utilisées par des biologistes qui sont regroupées sous le nom de cues. Et il y a les visual cues qui sont par exemple les images de drones, les images satellites, etc. Et l'acoustique peut être, comme disait Gabriel, un outil et fournir une cue de dire, bah, on a entendu telle espèce à tel endroit pendant cette période-là. Et sauf que pour ce faire, il faut approfondir les enregistrements, il faut savoir ce qu'il y a dessus. Et le problème, enfin, c'est pas un problème, mais c'est qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Et du coup, l'idée de la méthodologie, c'est du coup de faire tourner des algorithmes d'IA pour mettre au point des détecteurs, voire des classifieurs, pour pouvoir dire, bah là, on a détecté des vocalisations. Et idéalement, de dire quelle espèce c'est. Et encore plus idéalement, éventuellement aller jusqu'à l'individu.
Quand on parle d'IA, on parle de quoi exactement? De machine, deep learning, de système convolutif, comme on dit?
Ouais, moi je fais plutôt du deep learning dans le sens où, en fait, la distinction entre machine learning et deep learning, c'est que le deep learning, c'est les réseaux de neurones. Et ouais, moi je manipule plutôt des réseaux de neurones au quotidien, et les réseaux de neurones convolutionnels, tels qu'on les appelle, c'est des réseaux de neurones, en fait, qui ont été pensés à la base pour l'image. Et en fait, nous on utilise.
Pour la reconnaissance d'image.
Ouais, pour la reconnaissance d'image, la segmentation, dire par exemple, bah, dans cette zone-là, on sait qu'il y a un cheval, un chat, un chien, un objet, n'importe quoi. Et en fait, les couches convolutionnelles sont là pour vraiment traiter les caractéristiques de l'image. Et nous, en fait, le son et l'image peuvent être proches dans la mesure où on utilise ce qu'on appelle des spectrogrammes, qui sont des représentations temps-fréquence du son. Et du coup, ça fait une matrice en 2D. Et une matrice en 2D, si on la met en noir et blanc ou en couleur, ça fait une image.
C'est ça. Après, une des, c'est pas forcément ce qui est le plus dit, mais la base de l'apprentissage d'un modèle deep learning supervisé, c'est qu'on a besoin de bases de données annotées.
C'est que l'idée. C'est un travail humain pour le coup.
C'est exactement ça. C'est qu'un algorithme qui connaît chien chat, c'est parce qu'avant il a vu un million de chats, un million de chiens, et qu'après il sait faire la distinction entre les deux. Donc nous, on a besoin d'un million de baleines bleues, de baleines à bosse, de rorcal, de baleines grises, de tout ce qu'on veut. Et ça, c'est un travail qui est extrêmement long. Et nous, dans l'équipe, on a aussi avec l'ENSA Bretagne et l'association Astrolab Expédition, on a beaucoup développé des plateformes d'annotation sur une base de sciences participatives. C'est Applause, la plateforme. Et l'idée, c'est de se dire, l'annotation, c'est extrêmement chronophage, c'est extrêmement long. Et du coup, on se pose la question, est-ce qu'on peut pas faire ça avec des sciences participatives, demander à des néophytes de venir reconnaître des cachalots, des dauphins communs, des... Donc, à partir de formation, et on a pu notamment montrer qu'effectivement, il y avait de la pertinence, et on a pu avoir des bases de données plus complètes pour développer des modèles de détection automatique.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur l'appli Radio France. Olivier Adam, vous avez combien d'heures d'enregistrement ?
Oula, oui, ça c'est une bonne question. On en a beaucoup. Bah, en fait, moi j'ai commencé en 2000. Alors, en 2000, je faisais des choses un petit peu artisanales. Enfin, moi j'avais un hydrophone et puis on enregistrait, dès qu'on était en mer, on faisait des enregistrements. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis assez vieux pour avoir vu en fait cette histoire. On a commencé à mettre des hydrophones là qu'on mouillait. On laissait un jour, une semaine, un mois, 6 mois, et puis on partait au labo. Et puis après, ça accumulait de la donnée. Et puis après, on récupérait l'hydrophone après. Et au labo, on pouvait avoir accès à des heures et des heures et des heures d'enregistrement. À Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, on a mis des hydrophones au nord et au sud de l'archipel, et c'est peut-être la plus belle base de données que j'ai jamais entendue, parce qu'il y a des cétacés, genre, mais en non-stop. Et alors, on a enregistré jour et nuit, 24 heures, 24, 7 jours, 7, c'est exceptionnel. Et là, dans le reportage que vous venez de voir, il évoque, en fait, que vous venez d'entendre, je veux dire, il évoque, en fait, cette grande base de données, mais qui va les annoter? Parce qu'après, une fois qu'on a les enregistrements, bah, il faut les écouter, sinon ça sert à rien, vous pouvez les mettre à la poubelle. Le faites pas, me les envoyez moi avant, mais on sait jamais. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, comment on va faire pour annoter toutes ces bases de données? Alors, nous, on est considérés comme des experts dans Go4it, on le fait tous maintenant, hein, quand on va dans les conférences, on voit tous les collègues passer les spectrogrammes les uns après les autres pour faire des annotations directement. Mais nous, on a eu une idée de dingue avec l'ENSTA encore, et Gabriel Dubus et Lucie, qu'on venait d'entendre, on a mis en ligne des enregistrements, et on a fait ce qu'on appelle la science participative. Moi, j'adore ça. C'est-à-dire qu'on a des anonymes. On leur dit, écoutez, vous allez nous dire s'il y a des clics de cachalot dans l'enregistrement suivant. Et c'est exactement ce qu'ils font. C'est exactement ce que vous faites quand tu veux valider un paiement sur Internet, où tu dois sélectionner les 3 images avec des voitures, ou les 3 images avec des panneaux. Bah là, tu fais pareil en disant oui ou non, il y a un bateau, oui ou non, il y a des clics de cachalot. Et ce travail, il est juste exceptionnel.
C'est ça, un cachalot.
Oh, c'est ça, un cachalot. Ça, c'est Toulon. Toulon. En fait, à Nice, là où il y a cette fameuse conférence, entre Nice et Toulon, il y a des cachalots. Il y a des cachalots. Ils sont très proches, hein. C'est pas la peine de faire 100 km en mer. Et là, celui-là, il était enregistré à Toulon, dans le canyon de Toulon. Et c'est juste exceptionnel. Moi, c'est quelque chose qui m'a passionné. J'ai mis l'hydrophone dans l'eau. Il y avait le cachalot, il s'hyperventilait, il bougeait pas en surface. Il était à l'arrêt et puis il faisait des souffles de dingue, etc. Et à un moment donné, il commence à descendre. D'accord? Là, on voit très bien parce qu'il fait un genre de canard, ça veut dire qu'il lève la caudale. Et là, je mets le casque et j'entends, on le voyait plus. Et là, on entend tous ces clics les uns après les autres. Il descend, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? C'est un monde nouveau. Autant, moi, je suis pas plongeur, donc je vais pas descendre à 600 mètres de profondeur, donc j'en ai aucune idée de ce qu'il y a aux 600 mètres de profondeur, mais juste en l'écoutant, il nous ouvre la porte de ce monde exceptionnel, de son monde à lui, quoi. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et donc, on a reconstitué la trajectoire, d'accord? Et on s'est aperçu qu'en fait, il descendait jusqu'à 600-650 mètres. Et là, il commençait à chasser. Alors que le canyon, il faisait 2 km de profondeur. Donc, il aurait pu descendre plus profond. Mais en fait, il avait déjà assez de nourriture pour se stabiliser à cette profondeur. Il a commencé à chasser. Et on a fait des super travaux sur les cachalots. Notamment avec François Sarano, Hervé Glotin, enfin toute cette équipe. Et on travaille sur le comportement. On a travaillé sur l'allaitement. On a filmé l'allaitement et le cachalot fait partie de ceux qui ont une technique d'allaitement qui est juste unique chez les cétacés. Et puis maintenant, on fait du comportement, on fait le lien entre des comportements et des sons.
Voilà, et on commence à peine justement à effleurer cette compréhension fine de la communication chez les cétacés au niveau individuel et social. Dans les océans, le trafic naval a donc doublé entre 1950 et 2000, ce qui provoque un niveau de bruit deux fois plus intense tous les 10 ans. Alors quels sont les impacts de ce tintamarre sur les organismes marins ? Restez avec nous.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave.
Octopus Garden des Beatles en direct sur France Culture, car nous écoutons le grand orchestre des animaux marins en compagnie de nos deux invités du jour, Frédéric Olivier, écologue marin, professeur au MNHN affilié à l'unité mixte de recherche Boréa rattachée au LEMAR de l'Université de Bretagne Occidentale, et Olivier Adam, bioacousticien spécialiste du son des cétacés, professeur à Sorbonne Université. On vient de voir que la bioacoustique est une science qui étudie les animaux marins à partir des sons qu'ils émettent, et que cette discipline permet donc de mieux les comprendre et de mieux les protéger. Frédéric Olivier, qu'est-ce que l'anthropophonie sous l'eau ? Quels sont les bruits les plus intenses que nos activités humaines provoquent ?
Bien, sur les côtes françaises de la métropole, hein, ce qu'on entend et ce qui est le plus impactant, c'est notamment la phase d'installation des parcs éoliens ou des aménagements portuaires où on va utiliser des marteaux, on va faire du battage de pieux. Donc c'est un gros marteau pour enfoncer des pieux dans le sédiment. Et ça peut générer, selon la taille du marteau, selon la puissance qui est développée, ça peut générer des bruits jusqu'à à peu près 270 dB, quoi. Donc c'est vraiment important.
Ça représente quoi, à peu près 210 dB?
Alors, la différence entre...
alors là, c'est l'acousticien qui...
c'est plus que ça, puisque on est... il y a une différence entre ces niveaux sonores dans l'air et dans l'eau. Vous enlevez 60 dB pour être dans l'air. Donc vous êtes quand même à 200 dB. Je n'ai pas idée, mais ça doit être proche d'une explosion, peut-être, dans l'air.
En fait, c'est difficile de comparer. C'est difficile de comparer ce qu'il y a dans le milieu aérien et ce qu'il y a dans l'eau. Il faut être un peu prudent parce qu'en fait, les intensités sonores, quand on fait des comparaisons un peu rapides, on a tendance à donner des conclusions qui sont pas exactes. Par exemple, si on nage devant un cachalot, ça envoie vraiment du son, quoi. Et pourtant, ça nous impacte pas. On n'a pas de danger ni pour notre système auditif ni pour nous-mêmes. Donc en fait, il faut un peu se méfier sur les sonorités sonores. Tout ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'il y a des battages de pieux, par exemple, ou du trafic maritime ou des sonars, on a recensé en fait les niveaux sonores, les seuils sonores. Alors là, que pour les cétacés, hein, encore une fois, ils ont encore beaucoup de travaux à faire pour les autres espèces. Bon, on a des seuils pour les tortues aussi, mais marines. Et en fait, ce qu'on a donné, c'est, enfin, les Américains ont donné en fait des seuils à ne pas dépasser sous peine de qu'il y aurait une perte du système auditif, une perte d'audition temporaire ou permanente, comme nous. Hein. Enfin, si je vous soumets un type de son et qu'il est trop fort, eh ben, vous allez perdre votre performance, votre système auditif. Et en fait, il y a quatre données pour le son. C'est l'intensité acoustique, évidemment. Plus c'est fort, plus ça impacte. Les bandes fréquentielles, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait, il faut que ça corresponde à notre système auditif. Il y a le type de son. Donc là, c'est ce que tu disais, c'est les impulsionnels et continus.
Voilà,
c'est ça. C'est soit le trafic maritime, vous voyez, avec un moteur constant dans l'eau, soit on tape sur un pieu. Et puis la quatrième, c'est quoi? Le temps d'exposition, le temps d'exposition, bien sûr, parce que si je vous fais un gros bruit en 15 secondes, ça va être moins impactant que si ça dure un an. Vous voyez ce que je veux dire?
En tout cas, ce battage de pieux, vous l'avez enregistré, ça donne ça. On va le passer très rapidement parce que pour les humains aussi, c'est très désagréable. Et ça, donc, c'est un son comme ça en continu sur les écosystèmes marins. Est-ce qu'on sait l'impact que ça a? Alors, on va parler des invertébrés, mais déjà d'abord, ce type de nuisance sur le champ des baleines, on a vu que... Les baleines, les vocalisations des baleines deviennent de plus en plus graves au cours de ces 20 dernières années.
Oui, on va répondre en deux points hein, sur cette question-là. La première, c'est que l'impact de toutes les activités humaines en mer toutes les activités humaines en mer sont bruyantes, elles ont été recensées, et après on a regardé quel impact ça avait. Principalement sur le système auditif, parce que c'est le système auditif qu'on connaît le mieux chez les cétacés. Mais après, on a quand même fait aussi des observations de comportement. Et donc, on est capable de dire, ce type de son, la baleine va s'éloigner par exemple de la source sonore ou va arrêter une activité vitale. On a diffusé par exemple des sons de sonar à des cachalots. Les cachalots étaient toujours en train de plonger et au moment où on a diffusé des sonars, ils se sont arrêtés de s'alimenter, ils sont retournés à la surface et ils ont attendu que ce sonar s'éteigne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça c'est important de le dire, c'est rupture d'une activité vitale. Et puis il y a le stress. Ça a été montré chez les baleines franches. En fait, le bruit, les stress, et il y a une différence flagrante entre l'hémisphère nord qui est bruité et l'hémisphère sud qui est moins bruité, quoi. Un peu, et ça c'est aussi dans le domaine terrestre. Nous, par exemple, dans les villes, on est plus stressé et on a plus de risques cardiovasculaires que des gens qui ne sont pas soumis au bruit comme nous le sommes, vous voyez ce que je veux dire. Et puis après, ça va aller jusqu'aux échouages. Alors, l'échouage, en fait, le son est trop fort, soit il y a une panique, soit carrément ça dégomme le système auditif et là, les cétacés vont les échouer.
Le stress, Frédéric Olivier, on le voit aussi, vous l'avez expérimenté également sur des larves.
Oui, tout à fait. Alors, juste pour compléter déjà sur un peu l'équivalent de comportement de fuite et tout ça, on a fait des travaux dernièrement dans le cadre d'une thèse sur des bulots. Hein, tout le monde connaît le bulot, c'est quand même un plat qui est intéressant, notamment pendant les périodes de fête. Mais on s'est intéressé justement au déplacement de ces bulots. Et on est capable, dans le milieu naturel, d'équiper des zones avec des receveurs acoustiques. Et nous allons coller sur les bulots des tags qui vont émettre des sons à haute fréquence et qui vont pouvoir être enregistrés par ces receveurs. Par des méthodes de triangulation, on peut avoir une position vraiment précise de l'ordre de 50 cm. Et on a pu voir des dynamiques saisonnières sur l'échelle d'une année dans le golfe du Saint-Laurent avec nos collègues québécois. Et de voir qu'il y avait des saisons où les bulots se déplaçaient beaucoup plus, notamment l'été. Et on pense que c'est relié à des phénomènes de reproduction, parce que le bulot, c'est une espèce qui a besoin, pour se reproduire, il y a une fécondation interne, il faut qu'il y ait une rencontre entre un mâle et une femelle. Et donc, on imagine que cette augmentation de la mobilité, elle est liée au fait que les individus, mâles et femelles, doivent se retrouver. Et nous avons fait une expérimentation en baie de Miquelon, où nous avons mis des bulots justement à différentes distances, et ça on est capable de le faire maintenant, on réémet des sons sous l'eau, donc on réémet des sons de cargo sous l'eau, et on peut, en regardant des bulots qui sont proches d'un speaker, et en comparant par rapport à des bulots qui sont dans des niveaux sonores qui sont à peu près ambiants, eh bien un bulot quand il est soumis à des sons anthropiques, il va moins bouger. Et c'est vraiment significatif. Et donc, on peut imaginer des impacts, si vous voulez, sur ces probabilités de rencontre avec la femelle ou le mâle.
Et donc, vous avez diffusé ces sons de cargo
pour
les bulots. Et ça a donc un impact, en effet, sur leur comportement.
Sur leur
dynamique.
Comportement. Et ce son de cargo, il est quand même particulier pour nous. Nous avions fait un inventaire en baie de... à Saint-Pierre-et-Miquelon, et nous avons vu que ce cargo vraquier, là, qui est un vieux cargo qui transporte pas mal de matériel, c'est celui qui émettait des sons les plus importants. Donc on a fait une séquence sonore, hein, on travaille avec un bureau d'études, la Somme, qui nous aide bien, et on a un cargo qui arrive, on a une période qui est un petit peu plus courte de calme, qui repart, eh bien, cette séquence sonore, on l'a utilisée sur les bulots, on l'a utilisée aussi en conditions expérimentales sur nos larves. Donc là, on a regardé un petit peu nos larves, si elles étaient sensibles à ces sons de bateau à différents niveaux. Et là, on a été à l'intérieur de la larve. On a des outils là en biologie. On appelle ça de la métabolomique. Vous allez, alors, on fait des élevages larvaires. Hein, on va travailler sur des lots de larves de 50 000 larves parce qu'il nous faut beaucoup de matériel pour avoir détecté ces différents métabolites. Et ce qu'on a vu, et ça, c'est vraiment, ce sont des résultats qui datent de quelques mois seulement. Hein, c'est que on a des, on détecte des stress. On détecte des, comment dire, le système nerveux est impacté. On a, comment dire, une augmentation du métabolisme. On a une consommation des réserves énergétiques qui est très importante. Et on a une accélération de tout un processus de métamorphose. Hein, la larve de beaucoup d'invertébrés est d'abord dans l'eau. Et puis, elle va, comment dire, se fixer, se sédentariser sur le fond. Lors de ce passage, dans le milieu naturel, il y a à peu près 90% de mortalité. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans des conditions où on élève nos larves, on les soumet à des sons qui sont pas du tout favorables. Hein, les habitats que d'un cylindre en plexiglas pour la larve, c'est ce qu'il y a de pire. Eh bien, on est capable de les forcer à se fixer. Donc ça veut dire que si vous êtes dans le milieu naturel, que vous avez des cargos qui passent et que vous avez des larves qui sont prêtes à se fixer, eh bien elles vont se fixer même si elles sont pas sur un habitat favorable. Et ça veut dire des mortalités potentielles et donc des impacts pour ces populations larvaires, mais aussi pour le renouvellement des stocks.
Pensez juste pour son, pensez à un truc très simple, c'est qu'en fait, moi je vois trois choses qui sont étonnantes. Le son pour communiquer, là ce qu'on est en train de faire en ce moment, d'accord, si on n'avait pas ce son, ben, on pourrait juste pas communiquer à part visuellement, quoi, observation visuelle. La deuxième chose, c'est le bruit, donc là on aurait tendance à dire oui, c'est les côtés un petit peu plus difficiles, un peu plus impactantes, un peu plus négatifs, et puis il y a la musique, et on pourrait pas vivre sur la musique, tu vois ce que je veux dire, la frontière des fois, on écoute Metallica, tu vois, on sait pas trop, je rigole, j'adore, mais en fait, c'est l'idée, c'est que le son, il peut avoir des aspects extrêmement positifs, et on l'utilise pour le bien-être, par exemple, on l'utilise pour faire de la méditation, de la relaxation, etc. Et puis, il peut avoir aussi des aspects des aspects négatifs, et c'est cet aspect-là qui est hyper intéressant à étudier. On fait du playback comme vous, enfin, je veux dire, on est parti pour faire du playback, là, c'est parti pour 5 ans, au minimum, et on va envoyer du son, c'est ce qu'on fait avec le CEREMA pour les histoires de collision et de détection des bateaux en avance par les cétacés. Et c'est hyper intéressant, quoi.
Alors justement, depuis 2008, la communauté scientifique alerte sur la nécessité de réduire le bruit sous-marin. Quelles seraient les mesures concrètes pour limiter les effets néfastes de la pollution sonore ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, on se penche, on écoute la bioacoustique marine. On vient de voir que, et on vient de parler de la pollution sonore aquatique, on vient de voir que selon l'intensité, le son peut influencer directement la dynamique des espèces et la biodiversité. On a vu que, un peu comme les oiseaux urbains par exemple, qui chantent plus fort à une fréquence plus élevée que leurs homologues ruraux, c'est aussi le cas pour les cétacés d'une certaine façon. Est-ce que pendant l'UNOC, cette troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, Olivier Adam, il a été question justement de cette pollution sonore?
Moi j'en ai parlé, j'étais invité pour en parler justement de la pollution sonore et j'avais trouvé un titre top, j'avais trouvé « Les baleines auraient préféré le monde du silence ». Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, non, c'est important. En fait, je pense que maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas ignorer cette pollution sonore dans les océans. Enfin, je veux dire, autant il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, de trouver quelqu'un qui savait pas de quoi on parlait. Maintenant, je pense qu'en tous les cas, dans notre domaine, dans les personnes autour de nous, là, je discutais notamment avec un armateur qui construit des nouveaux bateaux et je peux te dire que le bruit, c'est quelque chose qu'il considère en amont de la construction de son navire. Donc, on voit bien que les mentalités ont changé. On sait faire des bateaux silencieux depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas comme si c'était une nouveauté. On a les solutions, on sait tout faire. Et mais là, maintenant, on commence... D'ailleurs, moi, ça m'a toujours étonné que certains armateurs ne tenaient pas compte au moins de leurs employés à bord de leur bateau, parce que le son, il est évidemment aussi fort sur le bateau que sous le bateau. Enfin bref, donc tout ça pour dire que effectivement, on en parle de plus en plus. La Commission européenne a quand même statué depuis 2008 sur le fait que le bruit était une pollution sonore, existait en fait, et donc on a des indicateurs, on peut faire des mesures maintenant pour dire si oui ou non la zone est noyée dans du bruit, que c'est impactant. Et puis là, évidemment, grâce à l'UNOC, on va probablement avancer très vite. Il y a eu par exemple sur le trafic maritime, il y a eu des propositions, notamment de réduire la vitesse, par exemple par les vitesses bleues de l'IFO qui est proposée par l'IFO. Là, il y a une petite compétition entre les États-Unis, le Canada et l'Europe pour savoir qui va diminuer la vitesse des bateaux dans leurs eaux territoriales. Bon, je pense que les États-Unis, c'est un peu fini, mais en tous les cas, voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a des mesures simples pour pouvoir réduire le son.
Frédéric Olivier, ce sont quoi ces mesures simples, ces mesures concrètes pour atténuer la pollution sonore?
Mais déjà, pour compléter un petit peu sur cet aspect réglementation, on a fait un état des lieux justement sur la réglementation de ces niveaux. Est-ce que c'est contraignant ou pas les mesures pour diminuer ces niveaux sonores? Il y a rien de contraignant actuellement. Il y a que des recommandations.
Oui.
Et c'est un constat. Donc tant que c'est pas contraignant, bien il y a des personnes qui peuvent être sensibilisées à ça, mais c'est pas un moteur d'évolution, on va dire, vers des méthodes. Pour, alors on les connaît, hein, les méthodes de mitigation pour du battage de pieux, vous mettez des rideaux de bulles. Toutes les entreprises qui font de l'aménagement ne le font pas. Mais elles sont pas contraintes.
Il n'y
a pas d'obligation légale.
Voilà, mais on peut discuter quand même avec des gens qu'on a conscience et qui vont faire des efforts. Nous, par exemple, au port de Guadeloupe, ils ont une démarche environnementale qui est, à mon avis, très bien. Le CNRS là, qui avait prévu d'aller faire une campagne sismique en plein dans le mois des baleines à bosse, ils vont la faire plus tard parce que c'était pas approprié. En plus, ils traversaient le Sanctuaire à Goa, donc c'était quand même Sanctuaire à Goa, c'est dans les Antilles. C'était quand même ballot, quoi. Donc on voit quand même qu'il y a des choses qui bougent. Alors je dis pas que c'est parfait, c'est vrai qu'effectivement avec des régulations oui, économiques, ça serait plus simple pour tout le monde parce que tout le monde s'y retrouverait, quoi. Et ça serait en tout plus le cas pour tout le monde et pas simplement ceux qui veulent bien faire des efforts parce qu'ils ont une conscience environnementale.
Et puis il peut y avoir des choses comme il y a des périodes qui peuvent être critiques. Hein. Nous, ce qu'on a démontré notamment sur la coquille Saint-Jacques pendant la phase de reproduction, c'est quand il y avait des niveaux sonores qui étaient très importants, eh bien il y avait une réduction de la gonade et qu'il y avait vraiment des réponses de stress assez importantes pour des coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc par rapport à du battage de pieux. Eh bien peut-être faire des opérations pendant des périodes hors reproduction, c'est peut-être à favoriser. Hein. Ça peut être des choses aussi sur des plannings d'opérations sans aller sur des choses qui coûtent très cher ou des réductions, bien sûr, des vitesses de bateau.
Je voulais dire être un peu plus à l'écoute justement de la rythmique des environnements marins.
Tout à fait.
Nous, on va en parler. On fait un congrès qui s'appelle le congrès mondial sur les baleines à bosse qui va avoir lieu à Tadoussac. À Tadoussac, qui est peut-être une des grandes places pour faire du whale watching au Québec. Et justement, on va aborder ces questions-là parce que c'est vraiment la thématique dont on parle. On parle des collisions avec les bateaux. On parle de la pollution sonore des bateaux. Des ferries ont déjà fait plein d'efforts pour essayer de minimiser en fait leur impact sonore. Et donc la marine marchande, on va aller plus loin et on va en parler explicitement lors de cette conférence.
Eh bien, merci à vous deux. Dans quelques secondes, on écoute Alexandra Delbo. Je vous remercie Frédéric Olivier, Olivier Adam de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure.
Ouais.
Pour prolonger le plaisir, j'invite nos auditeurs à podcaster une série documentaire qui est tout à fait passionnante, où on vous entend d'ailleurs, Olivier Adam. C'est LSD, la série documentaire, oui. La série Oubliez Moby Dick et notamment l'épisode La réponse de la baleine à bosse qui vous mettra, je n'en doute pas, la chair de poule. Allez, on quitte les océans, direction Pluton et son atmosphère. C'est la chronique avec science.
Quel est le rôle de la brume sur le climat de Pluton ? Pluton est une planète naine parmi d'autres, mais elle a une place particulière dans l'histoire des sciences. Elle est la première planète découverte par des scientifiques américains et la seule qui fut un jour la 9e planète de notre système solaire. Si vous avez plus de 19 ans comme moi, c'est ce que vous aviez appris à l'école. Au terme de débats très animés, elle a été reclassée en 2006 comme planète naine, mais ce changement de statut n'a bien sûr pas entamé la curiosité qu'elle suscite chez les astronomes et c'est presque 10 ans plus tard. tard qu'une sonde de la NASA est allée s'approcher au plus près de Pluton et de sa grande lune Charon et a découvert de la brume. Tanguy Bertrand est astronome à l'Observatoire de Paris.
En 2015, on a appris beaucoup sur ces deux mondes qui avant étaient assez inconnus. Et donc, on a vu par exemple sur Pluton qu'il y avait des bassins avec des vallées, des montagnes, des glaciers d'azote et de méthane. On a compris que l'azote sublimé et condensé et former une atmosphère en équilibre avec la glace à la surface, avec des traces de méthane dans l'atmosphère. Et puis la brume, finalement, elle a été aussi découverte lorsqu'on a survolé Pluton. Alors, elle n'était pas visible vraiment quand on regardait les images de la surface de Pluton. Elle était très ténue, mais elle a été visible lorsque la sonde New Horizons est passée derrière Pluton par rapport au Soleil. Et là, on a pu voir les particules de brume dans l'atmosphère. Donc, on savait déjà qu'il y avait de la brume. Par contre, on ne savait pas si cette brume avait un impact sur les températures de l'atmosphère.
Parce que les températures de l'atmosphère de Pluton sont étranges. La surface est d'environ moins 230 degrés Celsius. En montant, cela se réchauffe jusqu'à atteindre moins 170 degrés. Puis, elle refroidit à nouveau à moins 200 degrés Celsius. La brume pourrait-elle avoir un rôle dans le refroidissement de la haute atmosphère? C'est ce qu'a voulu déterminer cette nouvelle étude parue dans Nature Astronomie et dont ce chercheur est le premier auteur. Et pour observer la chaleur d'une planète, on observe dans l'infrarouge, comme avec des lunettes thermiques. Un télescope spatial était déjà capable de faire cela, c'est Spitzer. Seulement, sa résolution ne permettait pas de distinguer la chaleur émanant de Pluton de la chaleur émanant de sa lune Charon. En revanche, le télescope spatial James Webb est, lui, équipé d'outils suffisamment performants. Grâce à l'instrument MIRI, cette nouvelle étude révèle que la brume de Pluton a une forte émission thermique et c'est ce qui refroidit sa haute atmosphère.
Grâce à la résolution spatiale de James Webb, on a pu séparer Pluton de Charon et donc retrouver un signal thermique finalement, une émission thermique de Charon d'un côté et de Pluton de l'autre. Et on a pu à ce moment-là comprendre que la brume avait une émission très forte sur Pluton, ce qui confirme qu'elle a un impact très fort sur les températures de l'atmosphère. Donc la brume va absorber les longueurs d'onde du Soleil, d'accord, dans le visible. Elle va émettre très fortement dans l'infrarouge. Ce faisant, en émettant vers l'espace, elle refroidit l'atmosphère. Et les modèles, en fait, finalement, qui prédisaient les températures atmosphériques de Pluton sans prendre en compte la brume, prédisaient une atmosphère environ à 100 Kelvin. Alors, 100 Kelvin, c'est assez froid, hein, c'est moins 173 degrés. Mais en prenant en compte la brume, on se rend compte qu'on peut la refroidir de 40 degrés, ce qui correspond à ce qui est observé. Et donc, ce ne sont plus les gaz qui contrôlent les températures comme ce qu'on pensait avant. C'est vraiment la brume qui va contrôler toutes les températures de l'atmosphère. Et donc ça, c'est un cas d'atmosphère unique dans le système solaire, qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Cette brume est le fruit de réactions chimiques entre les ultraviolets du Soleil et le mélange d'azote et de méthane atmosphérique qui s'agrège avec de la matière organique et forme une sorte de suie glacée. Reste à comprendre plus en détail cette composition et à revisiter d'autres corps qui disposent d'une atmosphère semblable pour voir si cette brume pourrait se créer, comme sur Titan, une lune de Saturne, sur Triton, une lune de Neptune, sur des exoplanètes ou même dans le passé, sur notre Terre primitive, bien avant l'apparition de la vie telle qu'on la connaît. L'autre perspective de l'étude, c'est d'analyser comment cette brume plutonienne évolue dans le temps, car ce n'était ici qu'une photographie à deux instants, en 2022 et 2023. Or, Pluton fait le tour du Soleil en 248 ans. Sa trajectoire l'amène à s'éloigner ou se rapprocher de notre étoile, ce qui doit avoir une incidence sur ce brouillard.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Lou Angers, Alexandre Morales, Loïc Dutoit. La réalisation, c'est Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson. N'hésitez pas à nous podcaster sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, à nous suivre sur Blue Sky, sur Science CQFD. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.